Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campusil.com. Comme chaque premier samedi du mois, eh bien, c'est l'heure de retrouver le magazine Ondes de Chine. Voilà, et on retrouve Antoine qui nous a rejoint. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, on va parler aujourd'hui de voyage. Voyager en Chine. Et on va écouter une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps à l'espace culture à l'université de Lille, qui a fait de nombreux voyages dans le monde, et notamment en Chine, où elle est allée deux fois, une fois dans les années 80, 90, et une fois plus récemment. Donc elle va témoigner un petit peu de comment elle a vu ces deux voyages, et aussi elle a comparé un petit peu ce qu'elle a ressenti au travers de ces deux expériences. Voilà, sinon tu vas bien ?
Oui, ça va, pas de souci.
Oui, toujours dans l'apprentissage de la langue chinoise.
Oui, toujours, toujours. Ça fait assez longtemps que j'ai pas pu venir à cette émission. J'en suis vraiment désolé.
C'est selon le temps dont on dispose ici.
J'aurais bien aimé venir, mais bon. Des fois, il y a quelques empêchements, c'est pas
alors,
toujours facile.
Tu as manqué peut-être des épisodes précédents, notamment le mois dernier où nous avons eu pas mal de productions réalisées par les étudiants.
Oui,
tu les as entendues, non ? On pourra peut-être en réécouter quelques-unes de ces productions, parce que certains de ces étudiants présentent leur province. Donc, voir si dans ces voyages-là, on peut éventuellement proposer à des auditeurs d'aller voir les provinces dont ils parlent et qu'ils représentent ici. Ils sont à Lille, à l'université, ils apprennent le français pour l'instant. Et à la rentrée, ils seront dans leurs études, dans leur domaine. Hein, voilà. Donc on va passer un petit peu de musique encore et puis après on va glisser vers l'interview que j'ai faite de cette personne, cette grande voyageuse. Hein, elle a parcouru presque le monde entier, donc elle a des références en termes de ce qu'elle peut voir, comprendre, entendre. À vous d'écouter ça dans quelques instants. Un petit peu de musique sur Campus 106 FM, musique chinoise jusqu'à 13h. Voilà, donc je suis dans une exposition de peintres qui sont des peintres, je pense, de l'université au départ.
Oui, les peintres en général de l'université qui s'appelait Lille 1, mais plus pour longtemps, puisque toutes les universités vont être regroupées. Et donc c'est l'université des sciences. Mais bon, les scientifiques peuvent être aussi artistes.
Voilà, donc dans cette exposition, on peut voir de nombreuses œuvres hein, de différents artistes. Et là, je suis devant une peinture qui représente une scène dans une ville de Chine qui s'appelle Xi'an. et qui me semble assez typique d'ailleurs. Donc je suis avec Madame
Agnès Bauer.
Et vous, vous êtes allée en Chine ?
Je suis allée en Chine deux fois. Alors une fois, la première fois, c'était il y a plus de 30 ans. Donc j'avais fait le circuit vraiment classique, ce qu'il faut voir en Chine quand on y va pour la première fois. Et puis la seconde fois, c'était il y a quelques années, dans la province du Yunnan, qui restait encore très très authentique. Et il semble que la Chine, les Chinois, essayent de conserver cette authenticité, puisque à l'époque où les Chinois n'avaient droit qu'à un seul enfant, dans cette province, les Chinois avaient droit à trois enfants si les enfants étaient issus des ethnies locales.
Voilà, donc les minorités ethniques qui avaient certains avantages, pas que des avantages toujours. Hein. Le Yunnan, c'est un monde assez contrasté où il y a quand même beaucoup de populations encore pauvres, on va dire. Hein. Mais par contre, une province très belle, très riche dans certains endroits.
Oui, et puis aussi, chaque ville a sa propre authenticité, aussi bien du point de vue architectural que costume et puis aussi mode de vie. C'est vraiment très, très particulier et puis c'est très excitant pour les touristes, évidemment.
Donc vous avez perçu, vous, entre votre premier voyage et votre voyage récent, de grandes différences ?
Ah oui, voilà, c'est évidemment le modernisme, ça n'a absolument rien à voir. La première fois, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que les administrations et les hôtels qui pouvaient se permettre d'avoir ce mode de locomotion. Sinon, c'était en vélo, rien que des vélos. Et puis, donc, tout était très, très rudimentaire. Et puis, alors maintenant, bon, c'est le gratte-ciel, c'est assez étonnant. Puis, de toute façon, c'est un pays où les gens travaillent énormément, ça bosse hein, en Chine, et les chantiers, ça ne traîne pas.
Alors, si on parle de votre premier voyage, pourquoi y êtes-vous vous avez été inspiré par quelqu'un, quelque chose ?
J'aime beaucoup l'art asiatique et surtout l'art de Chine. C'est la céramique et les sculptures des époques anciennes. Mm-hmm. Et puis aussi le jade. Oui, le jade.
Voilà. Donc quand vous êtes revenu de votre premier voyage, vous avez ramené des choses intéressantes ?
La première fois, je suis revenue avec un porte-pinceau en jade et puis un seau en ivoire.
Avec l'encre rouge ?
Avec l'encre rouge, voilà.
Et vous les avez gardés ?
Oui, bien sûr. Oui.
Donc ça fait partie des grands moments de votre vie, ce premier voyage en Chine ?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Donc ce premier voyage, c'était pour vous compliqué ou bien c'était assez facile avec l'organisation que vous aviez choisie ?
Oui, c'était assez facile, mais alors il y a une chose qui m'est arrivée. Mon sac de voyage comporte, mes sacs de voyage comportent toujours une poche libre dans laquelle je mets en général un plan de ville ou des choses comme ça et qui évite d'ouvrir le sac chaque fois que je m'en sers. Et là, j'avais une poche libre et cette poche s'est retrouvée avec un document et ce document était écrit en chinois et il y avait une photo de quelqu'un, de la personne qui l'avait écrit. Et alors sur place, on m'a recommandé de ne pas on m'a dit qu'il était préférable de ne pas le divulguer, ni le montrer, ni le faire traduire sur place. Ça pouvait être dangereux. Et puis après, à mon retour, quand j'ai rencontré des Chinois, je me suis fait traduire, enfin pas entièrement, parce qu'il y avait quatre pages. Et en fait, c'était un opposant, déjà, un opposant au régime et qui voulait partir, enfin qui cherchait une voie pour s'évader. Enfin, ouais.
Alors à votre deuxième voyage, est-ce que vous avez encore des papiers de demande?
Non, enfin là, mon deuxième voyage, c'était après Tiananmen. Bon, enfin non, ça... J'ai rien ressenti de tel. Les guides locaux semblaient plus libres quand même dans leurs paroles.
Donc vous avez la chance d'aller dans le Yunnan, à la province du thé notamment. Hein.
Oui, et puis tant d'autres choses. Puis enfin du nord au sud, on approche d'autres tellement d'ethnies différentes. Et on était aussi tout au nord, très proche du Tibet. Et c'était donc on voit des moines déambuler dans la ville. C'est assez. Et puis au sud, les fameuses rizières en terrasse qui sont assez extraordinaires. On les a vues sous le brouillard. Mais donc, ça fait des dessins géométriques en noir et blanc qui sont pas mal du tout non plus.
À quelle saison?
Je ne sais plus exactement.
Parce que selon les saisons, ça change vraiment les couleurs.
Oui. Non, mais là, les rizières du sud, il faisait vraiment très froid et très humide. Enfin, le brouillard était très, très humide. Et d'ailleurs, on avait des matelas chauffants à l'hôtel. Oui.
Donc, ce n'était pas l'été.
Pas tout à fait, non. Mais...
Après, c'est vrai que vous parliez des zones tibétaines où là, on peut entrer dans la montagne, c'est haut, hein,
oui,
et
oui.
Il fait froid là-haut.
Oui, c'est à plus de 3000. Il y avait un caisson à oxygène dans les chambres de l'hôtel.
Voilà, donc une grande variété de paysages et de personnes.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous êtes allé dans d'autres pays, lesquels?
Oh, demandez-moi plutôt dans quel pays
vous n'êtes pas
allé.
Donc, s'il fallait, parmi les pays où vous avez voyagé, hein, mettre en valeur quelques pays, lesquels vous citeriez?
Bon, l'Asie, ça plaît toujours énormément. Dans l'Asie, bon, il y a l'Inde, où je suis allé 5 fois. L'Indonésie aussi, c'est très très beau. J'ai découvert le Japon il n'y a pas très longtemps. Alors l'Asie, ça plaît beaucoup. Il semblerait, que, d'après les groupes, puisque je voyage toujours en groupe, que les littéraires préfèrent l'Asie et les scientifiques plutôt l'Amérique latine. Parce qu'en Amérique, ce sont plutôt des paysages, tandis qu'en Asie, il y a une culture plus intense.
Donc vous n'avez pas été trop confronté à la barrière de la langue avec votre groupe?
Non, enfin, c'est la première fois, il y a quand même il y avait un couple qui n'avait pas du tout l'habitude de voyager en groupe, un couple, et qui a décidé une journée de s'aventurer seul. Et donc, ils ont pris un taxi, mais le taxi, ils ont eu un mal fou à s'exprimer, à demander là où ils voulaient venir. C'était vraiment très, très compliqué. Très compliqué.
Donc, si vous deviez retourner en Chine, où iriez-vous? Est-ce que vous changeriez de province?
Bien, il y a des provinces. J'ai des amis qui ont fait la route de la soie, et donc plus au nord, et donc il y avait des choses pas mal non plus. Mais quand j'ai vu leurs photos, j'étais un peu déçue par rapport au reportage que j'avais vu à la télévision quelques années plus tôt, parce que les gratte-ciels avaient émergé partout, même dans des localités qui étaient très très caractéristiques de la région. Enfin bon, je trouvais que c'était vraiment très dommage. Alors en Chine, au Yunnan, bon, il y a la ville de Lijiang qui est reconnue par l'UNESCO. Et alors là, bon, l'extension de cette ville ne se fait que en conservant l'architecture locale, obligatoirement. Donc ça va. Mais dans cette ville, le nombre de touristes, quand j'y étais, il y a plus de 10 ans, le nombre de touristes doublait chaque année. Alors j'imagine un petit peu ce que ça peut être maintenant. Enfin, des touristes chinois essentiellement, et je crois que c'est pas évident.
Donc effectivement, Lijiang, c'est une ville très très touristique, avec 95% de touristes chinois évidemment. Oui. Puis à côté, il y a des villages plus intéressants, si on veut découvrir une certaine forme d'ancienne architecture.
Oui, les environs de Lijiang, je me souviens plus très bien, parce qu'on est resté dans la ville, parce qu'elle était tellement belle que, oui, enfin bon... Enfin, quand j'y étais, on n'avait pas encore besoin d'aller aux alentours pour voir de l'authenticité, mais peut-être que maintenant, c'est le cas, je ne sais pas.
Donc, de Lijiang, vous êtes parti au nord, à l'ouest, ou vers Dali?
Dali, Lijiang, je ne sais plus comment s'appelle la ville au nord, là, près du Tibet, et puis ensuite le sud, les terrasses. Oui.
Voilà,
des
donc
marchés très 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 typiques, des marchés, oui, avec du chien.
On en trouve de moins en moins.
Alors j'ai deux photos de chiens. Enfin il y a les os dans une casserole sur un marché, et puis une autre, un chien qui accompagne quelqu'un avec une chaîne dorée, une chaîne avec une médaille dorée. Alors c'est un petit chien, et alors on m'a dit, ah ben ce chien-là, de toute façon, il passera jamais à la casserole parce qu'il est trop petit.
Alors c'est vrai, quand on va en Chine maintenant, on est étonné de voir les chiens adulés, adorés, quoi, oui, par beaucoup de gens qui ont des chiens, évidemment. Ça change la vie, des chiens. Donc on voit bien que la Chine... est en phase avec le monde d'une certaine manière, oui. S'ouvre au monde, hein, et que tout change
Shanghai,
très vite. Hein.
Shanghai, c'est quelque... enfin, les photos que j'ai de Shanghai et puis ce qu'elle est maintenant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Comment vous voyez les. Enfin, je ne sais pas, avec le recul que vous avez avec vos différents voyages, hein, la Chine, c'est sans doute un pays qui a le plus évolué dans les 20 dernières années. Là.
Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai. L'Inde est devenue très très moderne aussi, mais seulement dans certaines régions. Enfin bon, il y a Bangalore, Delhi, et puis le reste, c'est encore devenu, ça reste une vie presque moyenâgeuse. Enfin presque, oui, c'est assez étonnant. Enfin moyenâgeux avec quand même des smartphones. Les selfies, ça marche aussi dans les petits villages.
Bon, on n'est épargné nulle part, visiblement. Voilà, donc là, on est, on va dire, dans les années 2020 bientôt. Hein. Comment vous verriez l'avenir de ce pays, la Chine, hein, dans 30 ans, 20 ans, est-ce qu'on peut l'imaginer?
Je crois que, enfin, ils sont vraiment aussi à l'avance des hautes technologies. Hein. Alors, je ne sais pas ce que ça va devenir. Enfin, tout va être automatisé, tout va être robotisé, tout va être, je ne sais pas. Alors, l'homme dans tout ça, je ne sais pas. On se pose des questions, mais on se pose aussi des questions pour nous. Oui.
Donc là, on se pose aussi la question de la concurrence, d'une certaine manière, entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que vous en avez conscience?
Oui. Mais bon, les gens qui... Enfin, je dois dire que... Enfin, bon, j'ai de la famille aux États-Unis. Et alors, il paraît que dans les grandes écoles, les grandes universités, bon, parmi les gens les plus brillants, on trouve 60% de Chinois.
Bon, ben, l'avenir est assuré.
Oui, oui.
Bien, ben, je vous remercie. Hein. Donc, prochain voyage, ce sera où?
Normalement, je devais être aujourd'hui au Portugal, mais j'ai dû annuler mon voyage à cause des grèves TGV.
Bon, ça, c'est la France.
Voilà.
Merci, madame.
Je vous en prie.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, émission Onde de Chine, comme chaque premier samedi du mois, entre midi et 13h. Allez, je vous propose une petite balade au Yunnan avec cette chanson. Voilà, donc petit aperçu de comment se passent des voyages en Chine au travers du temps, sachant qu'évidemment les temps ont beaucoup changé et qu'on peut voyager maintenant dans de superbes conditions, notamment avec les grands trains qui traversent la Chine. Alors, on est avec Antoine toujours, hein, qui vient d'écouter ce reportage, il n'avait pas encore entendu. Peut-être quelques impressions.
Oui, tout d'abord, on apprend beaucoup de choses. Je trouve que la province de Yunnan est une province très intéressante. De par son authenticité, oui, ses particularités, notamment, elle reste assez pauvre par rapport aux autres provinces, mais il y a quand même beaucoup de traditions qui restent. Il y a aussi un climat très particulier. J'ai entendu dire que voilà, si on ne veut pas vraiment avoir chaud pendant l'été, il vaut mieux se diriger vers la province de Yunnan.
Voilà, ça c'est vrai, je vous le conseille. Dès qu'on est un peu en altitude, on a un peu de fraîcheur. À partir de 500-600 mètres, déjà, on se sent bien l'été. Hein,
le climat est très agréable.
Ouais. Après, il y a des fines pluies, des petites averses dans la journée. On voit des arcs-en-ciel parfois, on ne voit pas de nuages. Enfin, c'est très particulier comme lieu. Donc, je conseille à tout le monde de se réfugier là si vous avez trop chaud dans d'autres zones. Après, il y a les plateaux tibétains où il fait frais, hein, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, peut-être qu'on peut faire un petit tour du côté du Tibet un petit, en musique. Hein. On va avoir cette ambiance, voilà. Sachant que le Tibet, c'est très grand. Hein. Il y a plusieurs provinces, en fait, qui sont tibétaines. On parlait tout à l'heure des plateaux tibétains. Les plateaux tibétains, ils vont du Tibet jusqu'au Sinhai, en passant par le nord de Sichuan, etc. Donc, c'est immense. Hein. Voilà, on va prendre l'air et l'altitude. Alors, en parlant d'altitude, c'est vrai que la dame a bien expliqué qu'à partir d'un certain niveau, on va dire 3000 mètres, on est un peu en manque d'oxygène, hein, et que pour certaines personnes, bon, on peut imaginer effectivement d'avoir besoin d'aide respiratoire. De toute façon, je pense qu'il faut y aller. Si vous allez à plus de 3000 mètres, il faut y aller prudemment en faisant des montées et des redescentes, des remontées et des redescentes, jusqu'à temps qu'on trouve une certaine habitude, on va dire, à ces altitudes-là. On respire moins bien, c'est pas la peine de courir comme des fous. Hein. Mais voilà, donc c'est respirable, mais je vous déconseille au-dessus de 3000 mètres, si vous pouvez éviter. Mais ce sont des régions fantastiques, évidemment.
Et par rapport à Lijiang, c'est vrai que c'est une ville qui devient de plus en plus connue à travers le monde, que même dans... C'est plus rare de trouver dans beaucoup de... N'importe quoi, dans beaucoup de jeux, de musique, de vidéos, des informations à propos de la ville de Lijiang.
Alors, Lijiang, c'est une ville qui se construit encore, mais dans le respect de l'architecture traditionnelle, puisque, comme l'a dit la dame, c'est un site UNESCO. D'ailleurs, la Chine a fait beaucoup de demandes pour beaucoup de sites chinois qui soient classés UNESCO. Ça permet de les protéger, de garder une certaine éthique. Et on ne peut pas y mettre n'importe quoi. Je suis allé à Lijiang, effectivement, l'ensemble de la ville a une unité architecturale. Et puis, il y a une façon de vivre à Lijiang qui est différente des autres. Après, la nuit à Lijiang, c'est assez infernal. Jusque minuit, c'est les bars, etc. Dans le cœur de la ville touristique, c'est énorme, l'afflux de touristes. Ça dépasse l'entendement, hein, parce que c'est évidemment une ville très réputée où on s'amuse bien, il y a de l'ambiance, il y a des bars partout, des concerts le soir, il fait bon, on peut se promener tranquillement. Voilà. Mais je vous conseille, si vous allez à Lijiang, de prendre quelques jours, 4-5 jours, pour aller visiter aussi les petits villages aux alentours qui sont au moins, enfin, qui sont intéressants, parce qu'ils ont gardé peut-être davantage d'authenticité pour certains, et puis de façon de vivre surtout. Voilà. Donc Lijiang, c'est une belle étape. Il y a aussi, la dame en parlait, hein, Dali, qui est un lac très célèbre. Un lac, bon, je veux dire que pour ceux qui habitent au bord du lac d'Annecy, peut-être qu'ils trouveront ça pas forcément beaucoup mieux. Mais pour les Chinois, le lac de Dali, il est assez mythique. Hein, et donc beaucoup de gens y vont. Il y a énormément de touristes qui utilisent les possibilités de loger chez les habitants. Et voilà, c'est pas donné d'ailleurs, hein, maintenant les habitants ont bien compris que c'était leur business. Et donc tous les lieux qui sont au bord du lac, à moins de 5 km, les prix ont beaucoup flambé pour aller à Dali. Mais c'est un lieu qui est très intéressant également, bien sûr. Après, il y a plein de villages, comme je disais, hein, hors parcours habituel, qui méritent l'attention et qui ont préservé surtout les façons de vivre des habitants. Donc n'hésitez pas à sortir des lieux typiquement touristiques pour faire des escapades, sachant qu'on peut se promener où on veut en Chine pratiquement. Et donc, au besoin, vous pouvez trouver un chauffeur si vous n'avez pas de voiture, ou louer une voiture, mais il faut un permis homologué. Donc voilà, n'hésitez pas, les transports en commun en général ça fonctionne, mais il faut savoir comment et où les prendre. Et surtout quand on veut revenir, si on veut vraiment revenir à certaines heures, c'est moins évident. Mais bon, on a toujours réussi à trouver, à se loger en demandant aux habitants. L'idéal, c'est bien sûr de parler chinois, ce qui est ton cas maintenant, Antoine. Oui.
Mais le problème, c'est que peut-être que dans certains villages, certains ne parlent pas mandarin encore.
Voilà. Alors les personnes âgées, hein, mais les enfants, ils parlent, même certains enfants parlent anglais, hein, mieux que moi. Donc on peut toujours se débrouiller, tout dépend de la population qu'on rencontre. Alors sachant que ça n'a pas forcément été dit là, mais dans les petits villages du Yunnan, beaucoup de gens qui ont 30-40 ans sont partis travailler en ville. Et donc ne restent dans les villages que les personnes âgées et les enfants. Les enfants qui vont à l'école, donc certains d'entre eux sont assez... Forcément, ils apprennent le mandarin. Le mandarin.
Certains vont vers les grandes villes aussi pour étudier.
Oui, oui.
Ou les moyennes villes, simplement.
Souvent, les enfants restent là parce qu'ils doivent aussi aider les grands-parents. Je parle ceux qui sont dans les champs, dans les campagnes. Ils ont aussi ça. Il y a eu de très beaux reportages d'ailleurs là-dessus. Et cette semaine, on peut voir sur des chaînes publiques françaises de très très beaux reportages, notamment d'enfants qui vont à l'école dans le Yunnan, qui font 2 heures de route sur des ânes, traverser les rivières, descendre les montagnes. C'est vraiment une autre vie qui est pour nous assez étonnante. Hein. Et voilà, c'est la Chine dans toute son immensité et ses différences. Voilà. Et puis on voit dans beaucoup de ces reportages aussi, et dans l'Yunnan c'est énorme, les différentes ethnies qui composent la Chine. Hein. Il y a 56 ethnies en Chine. Et donc chacune a ses coutumes et sa langue, puisqu'a priori une ethnie c'est caractérisée par une langue commune. Et donc, voilà, on trouve des personnes âgées qui parlent encore, bien sûr, leur langue locale. Hein. Alors, il y a des langues, il y a des patois, il y a tout. Et puis, il y a la langue officielle chinoise qui, évidemment, s'apprend dans toutes les écoles de Chine. Voilà, donc on peut, si on parle le chinois normal, on va dire, s'adapter à peu près maintenant à toutes les zones géographiques.
Hein. Même dans le canton, la majorité des personnes parlent mandarin. Je dirais qu'il n'y a que les personnes âgées qui peuvent ne pas parler très bien mandarin. Mais...
À Canton ?
Oui.
Oui, à Canton. Oui. Mais c'est vrai que quand les gens discutent entre eux, on entend bien hein, les cantonais quand ils parlent entre eux. Quand on en...
enfin, sans l'accent.
Oui, il y a, une sonorité très différente de la langue en cantonais. Donc c'est vrai que ça...
Étant donné qu'il y a 8 ou 9 tons, je ne sais plus, dans le cantonais, c'est tout à fait différent. Ouais.
Ouais. Donc la langue chinoise normale, il y en a 4, je pense.
Oui,
et le cantonais,
ça.
Je crois que c'est 5. Ou, voilà. C'est le vietnamien qui en a encore plus.
Genre, peut-être 8 ou 9 pour le cantonais, oui. Il y a des tons très spéciaux, par exemple le « m ». Ça, c'est un ton.
Des intonations.
Oui.
Ouais. Voilà, donc c'est vrai que quand vous entendez parler des cantonais, vous entendez bien une différence, c'est clair. Alors c'est vrai que dans des espaces, on peut imaginer parfois, souvent c'est des erreurs qu'on peut faire quand on est à Paris, qu'on voit des personnes qui ont l'air, entre guillemets, chinoises, qui sont asiatiques. Souvent, des gens considèrent qu'ils sont chinois et les abordent en chinois, ce qui est une grave erreur, parce qu'ils peuvent tomber sur des Coréens, sur des Japonais, pourquoi pas, des Vietnamiens, évidemment, chacun est fier de son origine. Et donc, il ne faut pas considérer tous les Asiatiques, et même comme étant identiques et ayant les mêmes caractéristiques, et même en Chine, chaque ethnie a ses spécificités, son langage, ses instruments de musique, ses coutumes. Là, je voyais dans un superbe reportage, quand il y a vers le printemps la fête dans le Yunnan où les gens, la fête des bateaux dragons, c'est assez impressionnant. Puis il y a la fête aussi où ils se jettent de l'eau mutuellement pour se laver de l'année précédente et repartir. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi en Chine, c'est qu'avant la nouvelle année, on nettoie tout pour repartir neuf. Quoi. Donc c'est un peu
on
aussi...
On range tout, on nettoie tout.
Voilà, on a ces
coutumes. Certains de nouveaux habits aussi.
Voilà, on redémarre sur de nouvelles bases.
Et c'est vrai que par rapport au nouvel an chinois aussi... C'est également ça qui a permis de beaucoup développer les transports en commun, je pense. Parce que pendant le Nouvel An chinois, presque la totalité des Chinois retournent vers leur ville natale. Et ça fait de grandes migrations. Et je pense que le gouvernement chinois a dû fatalement développer énormément les transports, les trains, etc. Pour permettre de faciliter l'accès aux petites villes, aux petits villages, et le retour, surtout que les flux migratoires sont de plus en plus importants, il faut pouvoir gérer tout ça.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a énormément maintenant de trains à grande vitesse, hein, très grande vitesse, qui traversent la Chine, qui vont même au Tibet maintenant, Sichuan, etc. Donc effectivement, je les ai vus construire ces trains, c'est assez impressionnant. Hein. Depuis 12 ans que je vais en Chine, j'ai vu un chantier de construction d'autoroute par exemple. Du début à la fin de l'autoroute, le chantier démarre à un endroit, il est terminé à l'autre côté et il ne faut pas un an. Quoi. C'est ça qui nous surprend un peu quand je vois que chez moi il y a des travaux pour faire passer le bus nouveau bus high-tech. Ça fait 6 mois que les travaux ont commencé et on n'a pas encore fini. Que là-bas, on fait pendant ce temps-là quasiment une autoroute. Ça surprend, on n'est pas dans des mêmes échelles. Voilà, donc j'ai connu des trains bondés à l'époque où c'était parfois très dur d'avoir de la place et on était serré comme des sardines. Là, maintenant, tout se fait sur réservation. Donc, a priori, on ne peut pas trop rentrer dans un train si on n'a pas réservé. Ce qui fait qu'il n'y a plus forcément nécessité de se précipiter sur les wagons quand ils arrivent.
Et les prix sont toujours les mêmes. Ils ne vont pas forcément augmenter au dernier moment ou je ne sais quoi.
Alors, au niveau des trains. Les prix dépendent de beaucoup de choses. Ça dépend des trains qui sont plus ou moins rapides, qui font des escales plus ou moins nombreuses.
Mais ce que je veux dire, c'est que les prix des billets restent fixes. Si le billet est à 70, il va rester à 70, par exemple.
Ça, c'est pas encore dit, hein, parce que les nouveaux trains sont forcément plus chers. Et en plus, il y a des catégories par rapport à la vitesse. Donc, il y a des trains plus rapides que d'autres. C'est vrai que si on est prêt à passer 3 jours pour traverser, de Xi'an à Canton, mettons 2 jours ou 2 nuits, on peut payer beaucoup moins cher. Après, il faut supporter le voyage. Bon, moi je l'ai fait, c'est atypique, hein. Ça vaut le coup de faire une fois 2 nuits dans un train, dans un long voyage. C'est une ambiance le train, parce que les gens n'ont pas du tout le même comportement que dans nos trains en France. Déjà, ils arrivent avec plein de nourriture, ils sont blindés de tas de choses à grignoter, ils n'arrêtent pas de manger.
C'est vrai qu'il y a très peu de retard aussi.
Des retards, ouais, bon, en principe il est annoncé à l'heure, ouais. J'ai pas trop constaté de retard en Chine, même jamais. Après, il faut trouver un train au bon moment quand il y a vraiment des fêtes. C'est là que c'est compliqué. Et il vaut mieux pour les touristes bien savoir quand ont lieu les fêtes pour les contourner. Et voilà. Après, il y a aussi les prix d'hôtel qui sont variables selon les jours. En période de fête, ils sont beaucoup plus chers. Ça peut aller jusqu'au triple. Voire plus. Hein. Et en plus, on risque de ne pas avoir de place. Donc, quand vous prenez, par exemple, dans un lieu touristique, une semaine ou 15 jours, ça peut être intéressant d'intégrer 3 jours où il y a un pic de touristes, puisque bon, ça fera une moyenne. Vous aurez un prix pour les 3 semaines ou pour la semaine. Alors que si vous demandez pour ce jour-là, ça peut être très compliqué, dans la mesure où il n'y a pas de place. Voilà. Donc il y a des lieux magnifiques. Hein. Moi, le premier lieu qui m'a épaté, bon, à part Canton, quand je suis arrivé, c'est une ville fantastique. Quand on découvre la Chine, c'est, je pense, mieux d'arriver par Canton que d'arriver par Pékin, parce qu'on est dans une ville beaucoup plus populaire et beaucoup moins administrative. Donc on est directement en phase avec la population chinoise. Voilà. Et après, il y a des lieux incontournables, bien sûr, quand on est allé à Shanghai. C'est évidemment une ville qui est éblouie, très lumineuse, etc. Quoique Canton, la nuit, c'est formidable, hein, parce que la nuit, on voit des architectures lumineuses qu'on ne voit pas dans la journée. Après,
c'est vrai que Guangzhou, c'est aussi une très grande ville.
C'est immense. Ouais. Ça fait 35 millions d'habitants si on prend tout ce secteur-là. Hein. Et ce qui est bien à Guangzhou, là, c'est peut-être plus trop le moment. Mais par exemple, y aller au mois de mars, même un peu avant, il fait très bon là-bas, à cette époque-là. Et il y a la mer. Donc, c'est le moment d'aller visiter les plages, les ports, etc. À l'est, par exemple, de Canton, vers Shenzhen aussi, tout ça. C'est des lieux assez beaux, toute cette côte. Bon, même si la Côte d'Azur, c'est super aussi. Il ne faut pas non plus dire que nous n'avons pas des choses du même niveau. Mais voilà, pour ceux qui veulent visiter la Chine, ils y trouveront forcément un point de chute intéressant en cherchant et en s'adaptant aux différents climats. Donc effectivement, le Yunnan l'été, c'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant. La dame parlait tout à l'heure du Xinjiang. Le Xinjiang, c'est très chaud, bien sûr, hein, puisqu'on est sur l'ancienne route de la soie. Où il y a des déserts, hein, énormément de déserts, et donc des chameaux, hein, on voit des vrais chameaux même en liberté, c'est ça qui surprend parfois les touristes. Hein. Mais c'est contrairement à elle, enfin à ses amis qui ont ramené des photos pas terribles, moi j'ai des super photos de Xinjiang, et là aussi ça vaut le coup d'aller dans les zones, par exemple au nord il y a des montagnes, il y a des endroits très pays, enfin de culture, d'élevage surtout, et ça vaut le coup d'être vu, des grandes prairies, etc. Donc et puis le lac d'Emeraude qui est là-bas près du mont Altaï, hein. Voilà, c'est magnifique à voir. Voilà, il y a plein d'endroits merveilleux. Alors c'est vrai que si on prend la capitale du Xinjiang, c'est Urumqi. Avant il y avait des marchés en extérieur, etc. Les marchés musulmans, comme il y avait à Xi'an aussi quand je suis allé les premières fois. Maintenant, tout ça s'est remplacé par des immeubles en dur où il y a les mêmes commerçants, mais qui sont abrités. Alors, c'est vrai qu'on a toujours, quand on est touriste, envie de voir des choses à l'ancienne. Pour le coup, la typicité de ces étals innombrables pour ces marchés musulmans, ça n'existe plus sous cette forme. Et ça, évidemment, d'un point de vue image, on y perd beaucoup. Mais voilà, il y a toujours ces magasins qui existent et on peut y acheter des choses qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Même si
plus de confort pour la population aussi.
Comment ?
Ça fait plus de confort pour les vendeurs et la population aussi.
Enfin, c'est sûr que rester dehors sous le soleil ou sous la pluie, c'est jamais très, très intéressant. Et surtout l'hiver, hein, où il fait très froid aussi au Xinjiang. Hein, il fait froid tout le nord de la Chine, c'est très froid. Donc voilà, donc l'hiver, vous savez qu'il fait très froid. L'été, vous savez qu'il fait très chaud. Il y a des zones qui peuvent épargner ces problèmes. Alors, je l'ai dit, hein, l'hiver, vous pouvez aller au sud de la Chine. Et puis l'été, vous réfugiez sur les hauts plateaux tibétains. Voilà. On va écouter un petit peu de musique. Il est 12h56. On va bientôt rendre l'antenne, Antoine. Oui, vas-y.
Par rapport au désert du Xinjiang, notamment.
Oui.
Le gouvernement chinois a aussi énormément investi dans la dédésertification. Ils essayent de planter beaucoup d'arbres dans les déserts avec des techniques spécifiques, petit à petit. Et ça a l'air de marcher, mais disons que ça prend du temps, et il faut vraiment investir des sommes colossales pour que ça marche vraiment, quoi.
Alors après, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi aux essences qu'on plante, hein, puisque si on a, par exemple, planter des arbres de la même espèce partout, ça pose d'autres problèmes écologiques et notamment de tout ce qui est faune qui vient s'intégrer et qui n'équilibre pas forcément l'ensemble. Donc effectivement, moi j'ai vu sur des montagnes nues en quelques années des montagnes peuplées de petits arbres. Donc c'est très surprenant de voir tous les arbres, au-delà de ce qui semble naturel. Bon, ben, tout ça, ça va s'équilibrer. J'espère que tout ce qui a été défriché en termes d'arbres va être repeuplé dans les meilleures conditions. Voilà, l'avenir est en route. Merci Antoine, en tout cas, pour ta présence. Je te souhaite de belles vacances. Il n'y aura pas d'émission de Chine le mois prochain, puisque je serai en Chine, mais il y en aura une le premier samedi de septembre, qui doit être le 1er septembre. Voilà, je vous laisse avec un chanteur justement du Xinjiang qui s'appelle To Lang et que j'aime beaucoup. Donc cette musique-là, c'est un peu typique aussi du Xinjiang, notamment au niveau des instruments de musique. Je vous souhaite une belle écoute, bon appétit si vous entrez à table ou si vous y êtes. Et puis on se retrouve le 1er septembre pour une autre édition de Ondes de Chine. Bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée et bon voyage à toi René.
Merci beaucoup. À cette année, je crois que ce sera, si tout va bien, Sichuan, voire Yunnan, si j'ai envie d'y retourner.
Bah, Sichuan, c'est très bien. On peut bien manger là-bas.
Attention, ça pique.
Oui.
Voilà, il est l'heure de rendre l'antenne. Excellente soirée, après-midi, soirée, profitez.
Bonjour, je m'appelle Zanzi, je viens de Chengdu, de la province de Sichuan, en Chine. Je vous souhaite bonne écoute de Radio Campus, Université de Lille.